Aujourd'hui, on vous propose d'écouter ou de réécouter une première partie de la table ronde radiophonique réalisée en direct samedi dernier à la foire Biozone de Mur de Bretagne, Guerlédan.
Radio Craze Brace et Radio Brodunette en direct de la foire Biozone de Mur de Bretagne, Guerlédan.
Et il est 11h02, on est en direct sur les ondes de Radio Brodunette et de Radio Craze Brace. Nos micros sont installés au cœur de la foire Biozone de Mur de Bretagne, Guerlédan. Vous pouvez venir nous rejoindre sous le chapiteau remue-ménage. Alors, c'est encore un petit peu calme, mais nul doute que ça va se remplir ici à Biozone dans les prochaines minutes. Morgane Large de RKB, Gaël Ledu de RBG avec vous ce matin, grâce à Clément Bassot qui assure la technique.
Bonjour Gaël. L'appel de l'eau, c'est le thème de l'édition 2024 de la foire régionale Biozone. Ils ont souhaité s'emparer de cette thématique et ils nous ont fait une demande plus particulière au niveau radiophonique, c'est de parler d'un espace en eau, une réserve d'eau qui est tout près d'ici.
Oui, parce que l'eau dans ce coin de Centre-Bretagne, à cheval entre les départements du Morbihan et des Côtes d'Armor, c'est principalement au lac de Guerlédan qu'on la trouve. Guerlédan, lac artificiel, quasi centenaire, je crois, formé par la construction du barrage hydroélectrique du même nom. Quand on pense à Guerlédan, on pense donc à l'électricité, puis aux activités de loisirs qui y ont peu à peu pris place. Mais on oublie parfois que le lac constitue aussi une importante réserve d'eau potable.
Alors, tout le monde n'est pas d'accord hein, sur les usages de Guerlédan, mais bon, en attendant, on la boit, cette eau du lac. Et comment passe-t-on du lac au robinet? Quels sont les acteurs concernés par ce cycle? Quelles limites, quelles difficultés, voire quels conflits d'usage ont été identifiés autour de l'eau du lac de Guerlédan? C'est à toutes ces questions qu'on va tenter de répondre aujourd'hui.
Et ce sont normalement trois invités qui seront avec nous ce matin. Alors, on ne vous cache pas que ça a été très difficile de préparer cette émission pour laquelle on bat peut-être un record de désistement de dernière minute, ou presque, Morgane.
Oui, ça a été compliqué. On voulait absolument avoir deux acteurs incontournables. C'est-à-dire la SOR, qui en général travaille sur les usines d'eau potable, et puis EDF, puisque le barrage de Guerlédan a été au départ construit pour produire de l'électricité. Le barrage de Guerlédan continue de produire de l'électricité. Mais ces deux invités, notamment pour EDF, nous ont dit oui, puis jeudi nous ont dit non. On devait recevoir Olivier Lebras, qui est le directeur de la centrale électrique de Guerlédan et qui finalement ne sera pas avec nous. C'est fort dommage. Et donc, on remercie d'autant plus les gens qui sont autour de la table.
Voilà, donc il y a un troisième invité qui va sans doute nous rejoindre, mais voilà, peut-être qu'il a des petites difficultés pour se garer et pour nous retrouver. Mais voilà, nul doute qu'on pourra le retrouver d'ici quelques minutes. Autour de nous, Éric Séguet et Michael Dabbé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Éric Séguet, vous êtes président de la PPMA de Pontivy. Michael Dabbé, vous êtes le deuxième vice-président de la Clé. Vous êtes maire de Saint-Guin. Et vous êtes aussi, vous avez aussi un mandat sur le tourisme, c'est ça?
Je suis, oui, vice-président tourisme à l'Audiac Communauté.
Voilà. On va peut-être commencer par Éric Séguet. Est-ce que, Éric Séguet, vous pouvez nous présenter la PPMA de Pontivy? Qu'est-ce que c'est qu'une APPMA? Comment ça fonctionne? Et puis pourquoi c'est la PPMA de Pontivy qu'on reçoit aujourd'hui?
Oui, alors une APPMA, en fait, déjà, il faut rappeler que APPMA, ça veut dire Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Donc, quand on prend une carte de pêche, si on veut aller à la pêche, on est obligé de prendre une carte de pêche en France et on devient membre d'une APPMA. Et les APPMA sont structurées en fédération, donc la PPMA de Pontivy fait partie de la fédération du Morbihan. Alors une APPMA, bah, ça sert à plein de choses. On gère les baux de pêche. Alors il se trouve qu'en Bretagne, il y a encore peu d'endroits où il y a des baux de pêche parce qu'il n'y a pas d'enjeu très important d'un point de vue économique sur la pratique de la pêche. Donc il y a plutôt des accords tacites avec les propriétaires. Donc on gère les baux de pêche. On participe au chantier d'entretien de rivière, c'est-à-dire qu'on a, nous à la PPMA de Pontivy, moi j'ai la chance de diriger deux équipes, une qui est basée sur Noyal, Pontivy, et l'autre qui est basée sur Cléguérec, et peu ou prou, j'ai 70 personnes qui travaillent les samedis matins entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et on fait donc de l'entretien des cours d'eau, de l'entretien des berges. Et ces travaux s'inscrivent dans un cadre plus large qui est celui des contrats de territoire milieu aquatique, où là, on s'inscrit dans des travaux qui sont dirigés par le sage-blavet, supervisés par la clé, etc. Et les pêcheurs bénévoles apportent leur pierre à cet édifice. Donc voilà, on gère les bottes de pêche, on fait des travaux d'entretien de rivière, on a aussi un atelier de pêche nature, c'est-à-dire qu'on essaye de sensibiliser les enfants à la pratique de la pêche et à la protection des milieux. On a un partenariat avec l'éducation nationale, puisque au collège Charles Anglais à Pontivy, on a une section pêche sportive. Et puis, j'ai envie de dire, à la rigueur, le truc le plus important pour moi, ce qui m'intéresse le plus en tant que président dans une APPMA, c'est plus la protection des milieux. Et je dois dire que l'aspect sentinelle des milieux, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que les pêcheurs sont sur le terrain, et dès qu'il y a une pollution ou quelque chose qui apparaît...
C'est vrai que c'est souvent les pêcheurs qui sont là et qui voient, voire qui filment des problèmes sur les rivières et notamment les pollutions.
Donc effectivement, j'imagine que c'est un sujet dont on parlera peut-être. En 2019, il y a eu un incident assez regrettable en aval du barrage. Et c'est effectivement moi le premier qui ai appelé les services de la police de l'environnement qui sont venus constater sur place.
Mais on va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Michaël Dabbé. Michaël Dabbé, vous avez prononcé le terme de clé tout à l'heure. Vous êtes le deuxième vice-président de la clé, commission locale de l'eau du bassin versant du Blavet. Pour schématiser, est-ce qu'on peut dire que les clés, ce sont des instances qui réunissent tous les gens qui ont des enjeux par rapport à l'eau et qui viennent défendre un peu leurs intérêts au sein d'une commission où on doit trouver un consensus?
Oui, alors la clé, moi j'étais donc élu à l'Oudéa Communauté et donc j'ai été nommé à la clé du Sage-Blavet donc pour justement représenter la communauté de communes. Donc oui, on vient de milieux différents, parce que honnêtement, je ne connaissais pas grand monde, parce que chacun a à défendre son territoire et parce qu'on connaît notre territoire. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets qui nous sont proposés et donc on doit étudier et voir ce qui peut être fait.
On va parler juste comme ça, voilà, ça passe mieux.
D'accord. Ouais. Donc voir ce qui peut être fait et, ou pas fait, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément. Après, il y a des techniciens qui sont là aussi pour nous éclairer et voilà donc et valider certains projets.
Et les clés, c'est une émanation des sages?
Oui, tout à fait. Oui, donc on se réfère aux sages, bien évidemment. On ne peut pas faire autrement.
Voilà, sages, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Ouais. Chaque rivière a un sage.
Tout à fait.
On va se tourner, Gaël Ledoux, vers Clément, qui assure la partie technique de l'émission. On va lui demander s'il peut monter un tout petit peu le micro de Monsieur Dabbé. Et puis
en guise, enfin pour continuer dans l'entrée en matière, parce que là, ça y est, on commence à avoir un petit peu de contexte, on va entendre quelques mots de Bernard Le Breton. Bernard Le Breton, maire de Radnonac, président de Pontivy Communauté. Il est également vice-président d'eau du Morbihan, en charge de la ressource. Alors, il ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais nous entendrons sa voix à quelques reprises dans cette émission. Et tout de suite, il nous donne quelques éléments de contexte.
Le barrage n'est pas en soi un ouvrage qui sert à produire de l'eau potable. Hein. Historiquement, le barrage a été réalisé pour produire de l'électricité. C'est sa vocation première. On s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, il a de nombreux atouts, on va dire cela comme ça, par rapport à l'eau, à cette ressource en eau. C'est aussi un ouvrage qui sert à écréter les crues lorsqu'on peut avoir des étés ou des hivers très très pluvieux. C'est aussi un ouvrage qui permet de développer du tourisme autour du lac de Guerlédan. Et effectivement, le fait qu'on ait ce barrage là avec ce qu'on appelle un débit réservé, donc le barrage doit laisser s'écouler 2 mètres cubes par seconde. Donc à sa sortie, ça permet d'avoir de l'eau pratiquement tout le temps dans le Blavet et ça permet de faire fonctionner donc en aval les usines de production d'eau potable. Le délégataire pour eau du Morbihan sur ce secteur-là, puisqu'on on a différents secteurs, hein, donc je l'ai pas rappelé, mais eau du Morbihan donc est un syndicat, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, purement départemental. Il porte pratiquement sur les 4/5 des communes du département du Morbihan, sachant que les deux agglos, celle de Lorient, celle de Vannes, ne font pas partie du syndicat de haut du Morbihan. Donc on a des délégataires. Là en l'occurrence c'est sort, mais ça pourrait très bien être en régie, ça pourrait très très bien être avec un autre délégataire. La question elle est plutôt d'être comment on est le plus efficient pour apporter un service public à nos concitoyens.
Bernard Le Breton, qui boit l'eau de Garlédan?
Qui boit l'eau de Garlédan? Moi, je dirais plutôt l'eau du Blavet, parce que quelque part, on a une certaine façon de voir les choses en parlant de cette manière-là, puisque s'il n'y avait pas ce barrage de Garlédan, qui, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas été conçu pour faire une retenue d'eau potable, hein. C'est l'eau du Blavet. Ce sont effectivement une partie des Costa-Armoricains qui boivent l'eau du Blavet, une partie effectivement des Morbihanais ou le centre Morbihan. Mais le fait d'avoir ce réseau d'interconnexion qui nous permet au niveau du Morbihan d'envoyer l'eau effectivement du Blavet, on pourrait l'envoyer si besoin est sur le secteur de Ploërmel. Comme on a pu ramener aussi de l'eau du sud du département vers le nord, vers le secteur de Pontivy, quand il y a eu la sec du barrage de Garlédan, et où là on n'avait plus d'eau dans le Blavet pour produire de l'eau potable.
C'était Bernard Le Breton, vice-président en charge de la ressource pour le syndicat Eau du Morbihan. Alors, si on résume et si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est la SOR qui est délégataire pour Eau du Morbihan afin d'alimenter en eau potable à partir du lac de Garlédan une partie importante de la population morbihanaise. Alors, on va essayer de creuser un petit peu plus et de mieux comprendre qui fait quoi autour du lac de Garlédan. Monsieur Dabé, par exemple, la commune de Garlédan et l'Oudéac communauté, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans ce cycle, en l'occurrence concernant l'eau potable?
Alors non, l'Oudéac communauté n'a pas la compétence eau potable. Pas encore, ce sera normalement en 2026. Pontivy communauté là. Maintenant, ici, l'eau du lac de Garlédan dessert le Morbihan. Elle n'est pas desservie sur les Côtes d'Armor. Sur un mur de Bretagne, où on est vraiment à côté, c'est de l'eau en régie, en fait. Hein. C'est des captages d'eau que nous avons sur notre commune. Et sur Saint-Guin, c'est la SOR. Hein. Donc, voilà. Mais non, l'eau du lac de Garlédan ne dessert pas la communauté de communes.
Donc, Eau du Morbihan, c'est un peu l'équivalent du SDAEP 22 dans les Côtes d'Armor. Ouais. Le SDAEP, c'est le syndicat donc, de distribution et d'adduction en eau potable qui s'est beaucoup occupé ces dernières années d'interconnexion. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, l'eau de tout le département, de chacun de ces départements, peut aller du nord vers le sud, du sud vers le nord. Enfin, il y a énormément de mouvements d'eau qui sont faits. L'Eau du Morbihan s'occupe de la production, de l'interconnexion, du stockage. Parfois de la distribution, mais pas tout le temps. Il me semble que pour Pontivy, elle fait tout. C'est ça, mais pour Lorient et Vannes, il me semble que c'est. Elles n'ont pas. Eau du Morbihan n'a pas cette compétence de distribution. L'interconnexion, alors Bernard Le Breton prenait l'exemple de la SEC. En 2015, le barrage de Garlédan a été vidé, et c'est de l'eau qui est venue d'ailleurs, qui a alimenté les usagers. Mais plus souvent, on a l'impression que c'est quand même plutôt le barrage de Garlédan qui va alimenter des zones un peu plus peuplées du sud du Morbihan.
Complètement, complètement. L'eau du canal ne vient pas desservir les Côtes d'Armor du tout. Hein. Donc c'est vraiment le Morbihan qui est desservi par ce lac. Donc c'est vrai que c'est une importance parce qu'il faut que cette eau soit de qualité. Donc l'eau elle vient quand même des Côtes d'Armor. Hein. Donc voilà, on a tout intérêt à avoir déjà de l'eau de bonne qualité en amont pour que l'eau qui arrive dans le Morbihan, du moins, soit aussi de bonne qualité.
Moi, j'ai appris quelque chose en discutant avec vous, Éric Séguet, c'est que le barrage de Garlédan, en fait, ce n'est pas un seul barrage, il y a deux barrages.
Oui.
Moi, je ne savais pas ça du tout.
Par rapport à ce qu'il vient de dire, je vais répondre à votre question.
Éric Séguet, président de la PPMA de Pontivy.
Donc effectivement, moi, ce que j'ai souvent coutume de dire, c'est que le lac de Garlédan, c'est la principale réserve d'eau potable du Morbihan. Donc c'est un lac qui fait 304 hectares, c'est un des plus grands lacs de Bretagne. Il y a 55 millions de mètres cubes d'eau qui sont en réserve dans le lac. Et effectivement, le lac de Garlédan est né d'un barrage sur un fleuve. Parce que monsieur a parlé de canal, donc moi, à chaque fois que j'entends le mot canal, j'aime bien préciser tout le temps que c'est un fleuve. Le Blavet est un fleuve qui prend sa source dans les Côtes d'Armor et qui se jette dans l'océan Atlantique. Et c'est un fleuve qui, certes, a été canalisé, mais c'est un cours d'eau naturel. Et le lac de Garlédan est né d'un barrage sur ce fleuve. En aval de ce barrage, il y a 6 usines qui produisent de l'eau potable. Donc, il y en a 2 sur la commune de Cléguérec, tout près de chez nous, dont une qui est récente.
Oui, Mangouère, oui.
Et ensuite, il y en a une dans la ville de Pontivy, et puis il y en a encore d'autres un peu plus en aval. Donc, effectivement, savoir qui boit l'eau du Morbihan, c'est une question qui est... Monsieur Breton n'a pas vraiment répondu, moi-même, je n'ai pas la réponse. Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a au moins 200 000 personnes qui boivent l'eau du Morbihan. L'eau du Blavet.
Du Blavet, pardon.
Voilà, parce que vous avez les habitants de Pontivy, vous avez les habitants de Beaux, et puis après, le fleuve continue jusqu'à Hennebon, le Christ, l'Orient, et avec tout le système d'interconnexion, effectivement, je pense qu'il y a au moins 150 000 à 200 000 personnes qui boivent cette eau. Donc ça va être très intéressant, très important après pour la gestion de la ressource, sachant que la même eau peut être bue plusieurs fois, si je puis me permettre. C'est-à-dire que par exemple à Pontivy, vous avez une station dans la ville de Pontivy, au niveau du centre-ville, en face de tout le boubou, il y a l'usine du déversoir qui produit 10 000 mètres cubes par jour. Donc il y a 10 000 mètres cubes qui sont sortis du Blavet, qui sont transformés en eau potable, les Pontiviens la consomment, et en aval de Pontivy, juste à la sortie de la ville, il y a une station d'épuration qui rejette 8 000 mètres cubes dans le Blavet par jour. Donc il y a 2000 mètres cubes qui disparaissent, qui sont soit des gens qui arrosent leur jardin. Quand vous arrêtez votre jardin, l'eau elle retourne pas dans le Blavet. Par contre, quand vous lavez les mains au lavabo, si vous salissez pas l'eau, vous ouvrez votre robinet, l'eau coule et puis normalement elle retourne dans le Blavet, sauf s'il y a des fuites. Donc là, en termes de ressources, ça c'est un truc qui est très important. Les réseaux d'eau, les fuites sur le réseau d'eau sont extrêmement importants parce que, comme je le répète, pour TV, on prélève 10 000, on rejette 8 000, ce qui fait que les habitants de Beaux, un peu plus en aval, peuvent consommer cette eau qu'on a rejetée. Et donc oui, il y a 2 barrages à Garlédan, c'était ça la question. Donc il y a un grand barrage, qui est le barrage hydroélectrique, qui a été construit, je crois que vous l'avez rappelé, en 1930, et qui fait plus de 40 mètres de hauteur et qui donne naissance à ce grand lac. Mais immédiatement en aval du grand barrage, il y a un petit barrage sur la commune de Saint-Aignan qui donne naissance à ce qu'on appelle le bassin de compensation. Parce que comme le Blavet est un fleuve, il faut qu'il y ait tout le temps de l'eau dans le fleuve. On peut pas se permettre qu'il y ait plus d'eau lorsque les turbines ne tournent plus. Parce que EDF produit l'électricité, mais elle fait pas tourner en permanence ses turbines. Et donc, si on avait un barrage au fil de l'eau qui bloquerait l'eau, il y aurait plus d'eau dans le fleuve. Donc, quand EDF fait tourner ses turbines, l'eau coule, et ensuite, en aval, il y a un barrage de compensation qui sert à stocker un petit peu d'eau, de manière à ce que l'eau qui va ensuite dans le fleuve soit contrôlée, avec un débit qui est contrôlé. Donc, le débit réservé, le débit minimal que EDF est obligé de maintenir dans le Blavet, c'est 2,5 m³ par seconde, 2500 litres par seconde, qui peut être abaissé à 2000 litres, 2 m³, en période de sécheresse. Et donc, avec ce bassin de compensation, EDF a la possibilité de gérer au mètre cube près la quantité d'eau qui coule dans le fleuve.
On parle quantité d'eau principalement. Il y a eu quand même un épisode assez retentissant de sécheresse en 2022 qui a entraîné des alertes inédites, il me semble, hein, sur la Bretagne et particulièrement sur Garlédan. Comment ça s'est passé pour vous en tant qu'élu, maire de Saint-Gueulin, monsieur Dabbé?
Alors, on n'a pas forcément été touchée. Enfin, la population a toujours eu de l'eau chez nous. Donc c'est vrai que c'était pas un problématique pour la population. Enfin, bien sûr que si, il fallait faire attention. Mais on s'est aperçu que, ben voilà, on était aussi nous fragiles au niveau de la production d'eau. Parce que c'est pas parce qu'on est en Bretagne et qu'on a de la pluie qu'on a forcément de l'eau suffisamment. La preuve en 2022. Oui, on a tiré la sonnette d'alarme et on a fait attention à tout parce que c'est vrai qu'ici, nous avons eu des ordres par la préfecture de ne plus arroser les fleurs. Alors c'est un peu dommage hein, quand on a des belles fleurs qui sont juste plantées. Et voilà, on a joué le jeu. C'est un problème qu'il faudra prendre en compte parce que ça peut revenir. Voilà, et donc on a eu la chance, et sur certaines communes, dans notre secteur ça a été, mais sur certaines communes par rapport à ça, si on voit sur Plémé, le secteur de Plémé, ils ont été vraiment très limites. Ils étaient quasiment prêts à couper l'eau. Donc voilà, c'est un problème.
Alors là, on parle que des usages domestiques, voire plutôt, je ne sais pas, des mairies, mais les usages professionnels sont très importants aussi de l'eau, notamment, je pense, aux usages industriels, aux usages agricoles. Vous êtes sur une région aussi, l'Oudéac Communauté, où il y a beaucoup d'industries. À Pontivy, il y a aussi beaucoup d'industries agroalimentaires. Ce sont des gens qui font partie des clés aussi, les industriels, les agriculteurs, tous les usagers de l'eau. Il y a qui dans les clés ?
Dans la clé, il y a des organismes qui s'occupent de l'eau. Hein, donc, ça va être le SAGE, ça va être le PPMA, l'IE, l'OFB, voilà, c'est des élus, bien évidemment. Maintenant, on réfléchit bien évidemment, enfin, sur l'ODA Communauté par exemple, on réfléchit à la REUT. Hein, la réutilisation de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on s'est inquiété, justement, depuis 2022, on s'est inquiété à ce sujet.
On parle de l'industrie, là.
De l'industrie, ouais. Oui. Et donc là, on est allé voir les Sables d'Olonne. Alors, je ne sais pas si ça vous dit, mais les Sables d'Olonne, eh ben, ils n'ont pas assez d'eau. Bah, l'été, notamment, parce que c'est une population estivale. Hein, voilà. Et donc, ils ont du mal. Donc, ils ont fait une usine pour réutiliser l'eau. Donc, ils filtrent l'eau et qu'ils remettent dans des bassins pour pouvoir la réutiliser par la suite. Alors, ça, c'est des pistes hein, qu'on peut avoir. Hein. Donc là,
c'est-à-dire que l'eau ne passe plus dans le milieu naturel ?
Si, mais il s'est déjà filtré dans un premier temps pour être remis dans le milieu naturel et réutiliser cette eau. Ça, c'est une eau qui ne sera pas déversée autrement. Donc, la communauté a donc même postulé. Hein, donc, alors je vais vous dire parce que c'est une des seules communautés communes qui a été. Attendez, je vais vous donner ça à une opération européenne qui est. Donc, on a répondu à la candidature Interreg 2025-2028, donc Ouest Europe, et on a répondu à l'appel à projet New Water. Donc, c'est un programme qui consiste à soutenir des projets de réutilisation d'eau non conventionnelle pour faire face aux problématiques liées au changement climatique, justement. Et donc, c'est un programme de 7 millions d'euros qui a été fléché, donc 20 partenaires répartis en Europe de l'Ouest qui ont été retenus, et donc nous avons été retenus donc sur ce programme et ce projet-là.
D'accord. Et ça, c'est... Alors, Monsieur Davet, j'ai besoin de mieux comprendre, c'est l'eau dont vous parlez, là, qui va être réutilisée, c'est de l'eau des ménages ou c'est de l'eau des industries ?
C'est de l'eau des industries, parce que là, ça va être sur l'ODR Communauté, c'est sur la station du Calouette où c'est des industries qui délivrent beaucoup d'eau. Hein. Donc voilà, c'est de l'eau qui va être récupérée pour... Voilà, le but, c'est ça, hein, c'est de récupérer ces eaux pour qu'elles puissent être réutilisées par la suite.
Je voulais juste me tourner vers Éric Seguel, président de la PPMA. Vous l'avez vécu comment, cette sécheresse ?
Ben, en fait,
vous n'avez pas du tout, j'imagine, les mêmes préoccupations que des élus qui doivent gérer des zones industrielles. Vous, c'est plutôt les milieux qui vous inquiètent.
Quand vous avez une sécheresse en été, parce que c'est souvent l'été, mais... Disons qu'en été, c'est la période où les poissons sont pas en moment de reproduction. Donc, par exemple, quand je parlais du débit réservé tout à l'heure, 2500 litres par seconde, le préfet parfois demande d'abaisser à 2000 litres par seconde. Nous, les pêcheurs, on n'a pas d'opposition à ce que ça descende à 2000 litres parce qu'en fait, ça suffit pour maintenir la vie aquatique dans le Blavet en été. Ce qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est tous les affluents. C'est-à-dire que nous, on travaille sur le bassin versant et donc on a plein de rivières sur les communes de Noyal, sur de Cléguérec, Saint-Aignan, etc. Et quand il y a des sécheresses, malheureusement, on a eu deux épisodes les 6 dernières années, on a des rivières qui viennent à sec, mais pas le Blavet. Les affluents du Blavet viennent à sec. C'est un phénomène qui se produisait pas il y a 50 ans parce que c'est lié à une très forte modification du parcellaire agricole, pour l'essentiel. Et donc, effectivement, quand les rivières viennent à sec en été, pour nous, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que quand il n'y a plus d'eau dans une rivière...
Plus de vie.
Bah, éventuellement, les poissons, les truites, peuvent se réfugier dans les quelques trous d'eau qui vont rester. Mais la saison suivante, il n'y a plus assez de nourriture pour les poissons, puisque toute la vie d'un vertébré a été tuée, quoi. Donc, ce que je peux dire aussi sur les sécheresses, et ça s'est retrouvé aussi en 2015 quand il y a eu la sec. Quand il y a eu la sec du lac de Garlédan en 2015, on s'est retrouvé avec le débit entre guillemets naturel du Blavet. Et on a pu voir, pour tous les gens qui ont visité le fond du lac à ce moment-là, que il n'y a pas forcément beaucoup d'eau naturellement dans le Blavet en été. En 2015, ça s'était bien passé parce que c'était pas une année sèche. Mais c'est un point qui nous fait réfléchir aux conséquences du réchauffement climatique. Il faut essayer de se projeter. On nous promet, comme conséquence, on nous promet, entre guillemets, comme conséquence du réchauffement climatique, des sécheresses de plus en plus récurrentes en Bretagne. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour réfléchir aux usages et aux enjeux autour du bassin versant du Blavet.
Alors, on parle des sécheresses. On peut aussi peut-être évoquer les risques d'inondation. Alors, si on a bien compris, EDF va moduler le débit aussi pour éviter des inondations, notamment pour Pontivy. Et je crois que vous, Eric Séguet, vous posez la question si le plan d'eau marcherait pas un petit peu à l'envers.
Oui, alors ça a été évoqué dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure de Monsieur Le Breton. Le barrage a été construit pour produire de l'électricité. Et la mission première d'EDF, je ne vais pas parler à leur place, mais bon, un petit peu quand même, c'est de produire de l'électricité. Or, aujourd'hui, il y a des enjeux très importants autour du lac de Garlédan qui sont la conséquence de l'existence de ce barrage. Donc, il y a le tourisme. Et le tourisme exige que le lac soit haut en été, de manière à ce que, c'est ce qu'on appelle la côte touristique, le lac atteigne un certain niveau en été, de manière à ce qu'il y ait de l'eau au bord des plages, que les gens qui veulent aller se baigner à Corel ou à Mur puissent accéder directement dans l'eau à partir de la plage et pas avoir à marcher sur des cailloux si le lac était beaucoup plus bas. Donc on a une côte touristique l'été qui est haute, et à l'inverse, en hiver, on demande, donc c'est la puissance publique qui demande à EDF, de maintenir un creux dans le lac de 2,50 m, je crois, de manière à ce que s'il y a des pluies très importantes pendant plusieurs jours, EDF puisse servir de, enfin le lac puisse servir de tampon, c'est-à-dire stocker une partie de l'eau avant qu'elle s'écoule plus en aval, ce qui risquerait d'entraîner des inondations à Pontivy. Donc la puissance publique demande à EDF de maintenir une côte basse en été avec un creux d'au moins 2,50 m. Or, le fonctionnement naturel du milieu, c'est que un lac à l'état naturel, il aurait plutôt tendance à être bas en été et haut en hiver. Donc ça pose un problème, par exemple, pour la reproduction des poissons, puisque dans un tel milieu, le poisson de référence, ça va être le brochet, qui est un carnassier. Et le brochet est un poisson qui se reproduit sur les prairies inondées. C'est-à-dire que le brochet a besoin de déposer ses œufs sur de l'herbe, en fait. Et donc, il va se reproduire dans toutes les zones de frayères qui sont donc constituées de prairies inondées. Donc, sur le Blavet, malheureusement, étant donné que le Blavet est canalisé, il y a beaucoup moins d'endroits susceptibles de permettre la reproduction du brochet que si le fleuve n'était pas canalisé. Mais dans le lac, c'est encore plus problématique. Alors là, quand j'ai présenté la PPMA au début, j'ai dit que on gérait les bottes de pêche, mais il se trouve que le lac de Garlédan est limitrophe donc du 22 et du 56. Et c'est la fédération du 22 qui gère la pêche sur Garlédan. Mais je crois savoir qu'ils ont mis en place des frayères qui sont plus ou moins artificielles. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de les remplir d'eau de manière à ce que le poisson s'y reproduise. Et ils introduisent même des reproducteurs. Les poissons se reproduisent dans ces frayères qui sont en quelque sorte suspendus en fait, au-dessus du niveau d'eau, puisque... En hiver, au moment où le brochet va entrer en période de reproduction, le lac est plus bas que ce qu'il devrait être. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que ça fonctionnait à l'envers, en fait.
J'ai retrouvé, en parlant de la sécheresse, j'ai retrouvé lors des restrictions d'eau, dans quel ordre on priorise l'approvisionnement en eau. Alors c'est la DDTM quand a été composé le comité de gestion pour la ressource en eau pour anticiper les situations de tension et de pénurie. Alors, le premier facteur à protéger, c'est la santé. Ensuite, c'est la salubrité publique. Ensuite, c'est l'alimentation en eau potable. Ensuite, le respect des écosystèmes aquatiques et la protection de la ressource en eau. Voilà, dans l'ordre, les 5 points qui ont été déterminés par l'État.
Alors on va maintenant revenir sur la question de la qualité. Avant cela, Monsieur Dabbé, vous aviez peut-être... Des choses à préciser sur ce qu'on vient de dire.
Non, c'est vrai que, comme vous disiez, c'est un problème, hein, c'est ce marnage hein, qui se fait. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est à l'envers. Hein, c'est l'été qui devrait être plus bas. Et pour avoir participé justement aux réunions de la PPMA aussi de Mur-Bretagne, oui, vous avez raison, ils ont été obligés de faire des frayères artificielles pour que les poissons puissent frayer. Hein, donc c'est vrai.
Ça ne marche pas trop bien.
Bah, c'est pas moins naturel, donc forcément...
dis donc, il faut mettre des poissons dedans, en fait. Donc, tant qu'il y a des techniciens pour mettre les poissons au bon moment, ça marche.
Alors, on est toujours en direct de Mur de Bretagne. On parle de l'eau et de l'eau de Garlédan. On est en direct de la foire Biozone qui ouvre ses portes et qui va durer tout le week-end. On a autour de la table des acteurs de l'eau, notamment Monsieur Dabbé, qui est vice-président de la CLE, la Commission locale de l'eau. On a aussi Eric Séguet de la PPMA. Puis on a interviewé aussi Bernard Le Breton d'Eau du Morbihan, voilà. Qui ne pouvait pas être avec nous ce matin.
Oui, tout à fait. Bernard Le Breton, vice-président d'Eau du Morbihan, également président de Pontivy Communauté. Et on l'écoute justement nous parler de la question de la qualité de l'eau.
Radio Craze Brace et Radio Brodunette en direct de la foire Biozone de Mur de Bretagne, Garlédan.
Eau du Morbihan produit de l'eau qui vient donc essentiellement des eaux superficielles. Hein, donc on a 80% des eaux qui viennent d'unités de production d'eau superficielle, sur lesquelles on a des usines de traitement pour avoir une qualité de l'eau potabilisée, qui est déjà adaptée. On a plus de soucis sur les eaux souterraines. Historiquement, la qualité de l'eau, elle était plutôt bonne, et effectivement, au fil des années, on s'aperçoit qu'on a des soucis soit de nitrate, et effectivement, les nouvelles molécules, les résidus de pesticides que l'on peut trouver, nous obligent ou risquent de nous contraindre dans les années à venir à faire des investissements sur ces unités de production. Ça n'empêche qu'effectivement, sur ces unités de production d'eau souterraine, on a des périmètres de captage. Donc, on travaille énormément avec les agriculteurs, hein, parce que ce sont eux les premiers concernés par rapport à ces périmètres de captage, de limiter les intrants qu'ils peuvent mettre sur ces parcelles-là. On a vu plutôt une bonne évolution ces dernières décennies relatifs au problème de nitrate, même s'il reste quelques cas pas particuliers. Ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est le traitement lié à ces métabolites de pesticides, hein, ces résidus de pesticides qu'on peut retrouver dans l'eau, qui nécessite que l'on fasse des investissements forts pour mettre ce qu'on appelle des filtres à charbon pour avoir une meilleure qualité de l'eau.
Donc la réponse est technique.
Alors, elle n'est pas que technique, non, puisque très, très régulièrement, avec ma casquette de vice-président, là, sur la qualité, on rencontre les acteurs du milieu agricole pour les faire, à leur faire évoluer sur les pratiques. Alors, il y a des actions qui sont menées par les syndicats de bassins, notamment Blavet Terreau, qui fait des manifestations avec les agriculteurs pour les faire évoluer dans leurs pratiques. Donc, il y a déjà des choses qui bougent. Après, à la décharge entre guillemets de nos agriculteurs, ils utilisent des molécules qui sont mises sur le marché, qui sont validées par l'État, l'ANSES en l'occurrence, qui change de pied pratiquement, on va pas dire tous les mois, mais qui nous dit des fois que certaines molécules auraient un certain risque par rapport à la santé humaine. Le lendemain, ils disent qu'il y a pas de risque, qui autorise à ce que ces molécules-là soient mises sur le marché et que les agriculteurs les utilisent. C'est quelque chose qui est très très difficile à vivre et à appréhender, parce que effectivement, là je pense à une molécule en particulier qui s'appelle le S-métallochlore, qui est un résidu de pesticide pour le maïs.
Et on a augmenté les seuils, c'est ça, hein. Là les seuils, l'ARS a augmenté les seuils.
Ils ont bougé les seuils. Alors, faut savoir que les seuils sanitaires sont loin d'être le seuil vraiment de dangerosité. Hein. Il y a quand même d'énormes précautions. Hein. Il faut multiplier par un facteur 100 pour arriver à un seuil de dangerosité qui, lui, pourrait être multiplié par 10 par rapport à. Donc, il faut sans vouloir minimiser, hein, le problème, il faut faire très très attention avec ces chiffres. Alors il y a beaucoup d'incertitudes aussi relatifs aux effets cocktails que vous avez évoqués, si on retrouve plusieurs molécules. On travaille effectivement régulièrement avec les agriculteurs. On parle de ces problématiques liées aux résidus de pesticides, mais il y a d'autres produits pharmaceutiques, et notamment de pharmaceutiques humaines, dont on parle très 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 peu, qui font que, parce que quelque part, c'est facile de stigmatiser un certain milieu professionnel. Ça évite de regarder nous-mêmes ce qu'on peut rejeter comme médicament qui retourne dans le réseau d'eau usée et qu'on retrouve dans le potable par la suite.
On est toujours en direct de la foire Biozone de Mur de Bretagne, Guerlédans, sur les ondes de Radio Crazybraise et de Radio Broadjuvenet. Éric Séguet, Michael Dabé. Alors, qui souhaite réagir ou préciser des éléments concernant la qualité des eaux du Blavet et du lac de Guerlédans?
Ben, on voit que Eau du Morbihan a quand même modernisé ses usines d'eau potable. Je pense à Manguère qui est neuve, je pense à Toultrinc, je pense à Barégan. Et on se demande si c'est pas pour répondre justement à cette dégradation de la qualité de l'eau et à ces problématiques autour des pesticides, des molécules plus petites.
Moi, quand ils m'ont posé la question sur est-ce que je peux parler de la qualité de l'eau, je peux effectivement en parler pendant des heures.
Éric Séguet de la PPMA de Pontivy.
Donc, je sais pas, j'ai plein de choses à dire. Déjà, il y a un truc qui est intéressant du point de vue des pêcheurs, j'ai dit tout à l'heure, c'est que le barrage a l'énorme avantage de maintenir de l'eau dans la rivière en été, puisque le fameux débit réservé fait qu'il y a de l'eau l'été. Nous, immédiatement en aval du petit barrage à Saint-Aignan, on a 2,5 km de rivière qui sont, à mon sens, une des plus belles rivières à truites de Bretagne. Donc, sur 2,5 km sur Saint-Aignan, vous pouvez pêcher la truite dans le Blavet à l'état naturel, en quelque sorte. Le Blavet qui n'est pas canalisé.
C'est la truite Fario.
Oui. Il se trouve qu'il y a une particularité, c'est que juste immédiatement en aval du barrage de Guerlédans, enfin du barrage de compensation, sur 2,5 km, vous avez à gauche le canal et à droite le blavet non canalisé. Donc sur 2,5 km, vous avez ce que serait le blavet, enfin ce qu'est le blavet lorsqu'il n'est pas canalisé. On peut descendre dans l'eau, on a de l'eau jusqu'à la taille et c'est une rivière à truites. Formidable rivière à truites. Et si, à mon avis, c'est une des plus belles rivières à truites de Bretagne, c'est justement parce que EDF permet qu'il y ait de l'eau dans cette rivière, même en été. Alors que beaucoup d'autres rivières, de très belles rivières comme la Sarre, ou comme le Scorff, ou comme la Hers, par exemple, un peu plus à l'ouest du pays de Pontivy, connaissent des étiages parfois très sévères. Alors pour la qualité de l'eau, il y a plein de choses à dire, parce que le barrage a aussi des inconvénients énormes, comme tous les barrages, c'est-à-dire que il y a des sédiments qui se déposent au fond. Et en 2015, quand il y a eu la vidange du lac, la sec du grand de tout le lac de Garlédan, il y a des milliers de tonnes de sédiments qui sont descendus dans le deuxième barrage, enfin dans le deuxième bassin.
Donc le fameux bassin de compensation.
Le fameux bassin de compensation. Donc à l'époque, en 2015, pêcheurs, à Fédération de pêche, on avait alerté les services qui étaient en charge de la vidange en disant tous ces sédiments, il faudrait peut-être savoir ce qu'on va en faire. Et à l'époque, il avait été décidé, donc quand je dis il, c'est pas moi, hein, c'est la commission qui suivait le suivi d'ASEC, il avait été décidé de laisser les sédiments dans le bassin de compensation qui est en aval du grand barrage, en disant que ces sédiments allaient se consolider, en fait.
Se colmater. Enfin,
voilà, ils allaient rester au fond et qu'ils n'allaient pas bouger, quoi.
Gentiment.
Et donc, il y a un suivi de ces sédiments, et j'ai vu un rapport récent, là, de 2017, qui évaluait à 55 000 mètres cubes les sédiments qui restaient dans ce bassin. Et donc c'est là l'incident qui s'est produit en 2019. C'est qu'en 2019, pour des raisons techniques, EDF a ouvert les vannes de ce petit barrage au plus bas. Et les sédiments qui étaient censés rester au fond, finalement, sont partis dans le fleuve. Ce qui a entraîné une pollution sur plusieurs kilomètres avec une mortalité de poissons et la fermeture de l'usine d'eau potable de Cléguérec située en Montgoire. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez sur la modernisation de ces usines. C'est-à-dire qu'à Cléguérec, il y a deux usines au même endroit. Il y en a une qui est plus récente que l'autre. Donc au moment de la pollution, le fleuve était très chargé en sédiments qui descendaient du bassin de compensation. La première usine a fermé et la deuxième a continué à fonctionner avec la même eau brute. C'est-à-dire vous aviez une eau qui arrivait du blavet qui était très chargée en sédiments, qui était marron, qui contenait beaucoup d'ammoniac. Et la première usine, Montgoire 1, qui est la plus ancienne, a été obligée de fermer car elle n'était pas capable de produire une eau potable aux normes avec cette eau qui était l'eau brute, qui était de mauvaise qualité. La deuxième usine a continué de fonctionner. Donc pour moi, c'était extrêmement révélateur effectivement du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une solution technique qui permet de produire de l'eau potable avec une eau brute qui est très mauvaise qualité. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on effectivement se préoccupe davantage de l'eau brute. Si l'eau qui arrive dans les usines d'eau potable était de meilleure qualité, il n'y aurait pas besoin de tous ces produits pour la rendre potable. Donc cet incident en 2019 avait très bien illustré ce que vous disiez.
Voilà. Alors il y a eu procès. Le procès s'est pas terminé puisque EDF.
Le procès.
Il a eu lieu.
Le procès était terminé, mais il y a un appel.
Il y a un appel, voilà.
Mais il y a quand même eu un jugement en première instance.
On peut savoir le résultat de ce jugement. Donc c'est EDF qui est incriminé hein, dans cette pollution.
Le jugement a eu lieu au mois de mai, c'est-à-dire que le président du tribunal avait prévu à son agenda 1h30 pour examiner l'affaire, et finalement l'audience a duré, je crois, 5 heures. parce que le président a cherché à vraiment tout comprendre. La question de fond, c'était de savoir si c'était plus avantageux, s'il y avait une intention de se débarrasser des sédiments de cette manière-là. C'est-à-dire qu'EDF plaide une erreur, il faudrait rentrer dans le détail du dossier. Mais
quoi qu'il en soit, ils ont été condamnés, ils ont fait appel.
Ils ont été condamnés à une amende de 50 000 euros. Et la personne qui est en charge du barrage a aussi été condamnée. Mais il y a effectivement un appel en cours.
Voilà.
Et on précise, si je ne me trompe pas, que ce sont plusieurs associations qui se sont portées partie civile.
Oui.
Dont votre association.
Donc moi j'étais, comme je disais au tout début de l'émission, le premier sur place et j'ai appelé les services de l'OFB et la PPMA c'est partie civile ainsi que la Fédération de pêche ainsi que l'association Eau et Rivière
de Bretagne.
Mais après c'est vrai que le personnel d'EDF a respecté le protocole tel qu'il était défini par les textes. Donc c'est leur défense. Et il est vrai que depuis, ce protocole a été modifié. Et normalement, un tel incident ne peut plus se reproduire. Et bon, je ne vais pas prendre la défense d'EDF, je ne suis pas là pour ça. Mais il est vrai que vous parliez des inondations tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de la lutte contre les inondations. Mais il est vrai qu'en 1994, il y a eu des inondations très importantes à Pontivy. On a été obligé d'évacuer l'hôpital. Et ce qui s'était passé à l'époque, c'est que le fleuve montait, il pleuvait, et EDF a été obligé de lâcher de l'eau parce que le lac était plein. Donc, si on rajoute de l'eau quand il y a déjà plein d'eau, ça avait entraîné les inondations de 1994. Donc, ceci, depuis, ne se produit plus, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'effectivement, le directeur du barrage gère très bien les flux, et parvient en hiver, quand il pleut pendant des jours et des jours, à lâcher la quantité d'eau qu'il faut les quelques heures où il ne pleut plus pour qu'il continue, pour qu'il revide à nouveau son lac, pour reconstituer son creux, pour pouvoir à nouveau accueillir des pluies pour faire tampon si jamais il pleut fort.
Il y a d'autres villes qui subissent des inondations, je pense à Quimperlé, mais il n'y a pas de retenue d'eau comme celle-là et tout le travail consiste davantage à refaire fonctionner des zones humides, à reméandriser des rivières, à retenir l'eau en amont pour limiter ces inondations, pour faire des... Puisque, comme disent les gens du Sage de l'Isole Elé-Laïta, un champ entouré de talus est une excellente bassine.
Et sur la qualité de l'eau... Nous, ce qu'on dit aussi pêcheurs depuis plus de 20 ans maintenant, mais bon, là, on n'est pas trop entendu là-dessus, c'est que une eau qui court, c'est-à-dire un fleuve blavé qui serait remis en eau courante, une eau qui court s'auto-épure, la rivière s'auto-épure, une eau qui court s'évapore beaucoup moins qu'une eau stagnante. Or, il se trouve que entre le barrage de Garlédan et la mer, vous avez 27 écluses. Et à chaque fois qu'il y a une écluse, il y a un barrage. En gros, le Blavet, c'est un fleuve qui, tous les 2 km, rencontre un barrage. Donc, vous avez le barrage qui barre le fleuve, vous avez une écluse qui permettrait aux péniches éventuellement de passer, et vous avez des grandes vannes qui permettent de réguler l'eau sur chaque barrage. Et il y a une vingtaine d'années déjà, on avait proposé que entre Pontivy et Garlédan, c'est-à-dire sur la partie du fleuve Blavet qui n'est pas naviguée depuis les années 50, eh bien, on mène une expérimentation d'ouvrir ces vannes. Alors, il se trouve que cette expérimentation, elle se fait de fait, puisque sur la commune de Neuliac, il y a une vanne qui est cassée depuis maintenant, je crois, plus de 8 ans. Et donc, de fait, sans que finalement personne n'ait mené cette expérimentation, elle se fait. C'est-à-dire que le fleuve est remis en eau courante sur ce secteur-là. Et on constate qu'effectivement, en l'espace de 8 ans, le Blavet a retrouvé la configuration d'une rivière courante et que ça pose pas de problèmes particuliers pour les ouvrages qui restent en place. Et donc, nous, on propose ça, on propose pas ça sur l'ensemble du fleuve, parce qu'on est bien conscient qu'il y a d'autres enjeux, comme la pratique du kayak, par exemple, à Pontivy, ou même des aspects paysagers. Mais l'expérience nous montre que la remise en eau courante d'une partie du fleuve améliorerait la qualité.
Ça s'appelle... Pardon, Gaël, allez-y.
Et qui est-ce qui pourrait décider, justement, de tout ça?
Bah, c'est en partie la clé, le sage, et puis surtout, donc là, on va tomber sur un problème politique, c'est la région. La région Bretagne, alors ça, c'est quelque chose qui est très étonnant, ça risque de surprendre beaucoup de monde. C'est qu'à dire qu'on fait beaucoup de travaux sur les affluents, il y a plein d'efforts qui sont faits, ça a été dit tout à l'heure, avec les agriculteurs, avec il y a des endroits où on refait des talus, on fait toutes sortes de choses comme ça. Mais le cours d'eau principal, le Blavé, parce qu'on parle bien d'un bassin versant, quand on parle d'eau, à tout moment, on réfléchit en termes de bassin versant. C'est-à-dire que c'est le bassin versant du Blavé avec tous ses affluents. Le cours d'eau principal est géré par la vice-présidente au tourisme.
Parce que c'est les voies navigables, c'est ça? On parle voilà. Des voies navigables.
C'est-à-dire qu'à la région Bretagne, vous avez une vice-présidente à l'environnement et à la qualité de l'eau, mais elle n'a pas la compétence sur les rivières naviguées. C'est la délégation du tourisme à la vice-présidence de la région qui gère le Blavet parce qu'il est considéré comme faisant partie des voies navigables.
Madame Allo, c'est ça?
Gallo.
Madame
Gallo.
Gallo, pardon.
Donc, après, chacun en pensera à ce qu'il veut. Enfin, moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais je ne vais pas la donner maintenant.
J'imagine, Monsieur Dabec, au sein de la CLÉ, Commission locale de l'eau, il y a aussi les instances du tourisme qui siègent ou pas? C'est un enjeu fort ou pas le tourisme au sein de ces commissions ou ils ne siègent pas
Alors, on n'y siège pas. Non, le tourisme. Moi,
parce que vous êtes au tourisme.
Moi, j'y suis au tourisme, mais c'est parce qu'en fait, j'étais nommé à la CLÉ, hein, pas pour le tourisme au niveau de la CLÉ. Hein, c'était voilà, en tant que délégué communautaire, c'est tout. Maintenant, bien sûr que le tourisme a une importance aussi hein, sur le canal, évidemment.
Et voilà. Sur Guerlédan.
Et sur Guerlédan. Oui, bah, sur le canal Guerlédan, bien sûr, hein, tout les alentours. Maintenant, la qualité de l'eau a forcément son importance. Oui, comme vous dites, c'est la région hein, qui gère le canal. Hein, donc voilà. Après, il y a des priorités, il y a des inquiétudes forcément qui sont remontées par la CLÉ. On étudie ce que je vous disais. Il y a des demandes de des barrages hein, ça par moment. Donc voilà. Et on en avait l'idée une il y a peu de temps. Maintenant. La CLÉ donne son avis en fait. C'est un avis que donne la CLÉ. Donc après voilà, généralement on va dans le sens bien sûr de ce qui va au mieux et parce que là aussi on est aidé par des techniciens qui du SAGE hein, et qui nous invite à et qui du moins qui nous renseigne sur tout ça. Donc on va en général dans ce sens bien sûr.
C'est des avis qui remontent à la préfecture, à la DDTM, à la Réal.
Oui, tout à
voilà.
Fait. Ouais.
D'accord. Bon.
Eh bien, bien.
Et donc, les débarrages, quand on parle débarrages à la CLÉ, ça se passe comment?
Non, c'est qu'en fait, c'est des avis qui nous sont demandés. Donc, on nous soumet un projet et on nous demande notre avis. Maintenant, c'est qu'un avis qu'on donne. Hein, donc, après, si. Donc
vous n'êtes pas force de proposition, forcément, sur.
Si, alors. Sur force de proposition, si dans le sens où quand on nous demande, on nous présente un projet, on va demander à ce qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau des poissons, enfin au niveau de la circulation de l'eau. On va proposer des choses. Maintenant, après, on est entendu ou on ne l'est pas, quoi. Mais on propose forcément, oui.
On va peut-être, vous voulez rajouter quelque chose, Éric Séguet, président de la PPMA de Pontivy.
Par rapport à ce que vous disiez là, cette remise en eau libre. Du fleuve éventuellement. En fait, si on reprend tout depuis le début, on a effectivement énormément d'enjeux. On a des enjeux touristiques sur le lac, on a des enjeux touristiques ensuite sur le fleuve, on a la production d'hydroélectricité, avec il y a eu l'usine de Guerlédan, mais il y en a d'autres en aval. Hein. Pas plus loin qu'à quelques kilomètres, il y a l'usine de Bolloré. Donc, le tourisme, l'électricité...
C'est où ça, cette usine?
C'est sur la commune de Neuliac, je crois, ou Saint-Aignan, Bolloré. Et donc le tourisme sur le lac, le tourisme sur le fleuve, la production d'hydroélectricité, l'eau potable, qui est peut-être l'enjeu le plus important, la lutte contre les inondations, qui effectivement est un enjeu essentiel, l'utilisation par l'agriculture et par les usines. Sur Pontivy, effectivement, vous l'avez rappelé, on a beaucoup d'usines qui consomment de l'eau. Et la navigation de grosses péniches, qui est un espèce de point sur lequel la région insiste beaucoup. Et donc, moi, personnellement, je considère que cet enjeu-là, il est peut-être de trop. Parce que pour faire naviguer des grosses péniches à tirant d'eau supérieur à 1,20 m, il faut barrer le fleuve, il faut aussi pomper de l'eau dans le Blavet pour l'envoyer dans le canal de jonction qui ensuite va dans l'Oust. Donc ça fait encore de l'eau qui sort du Blavet pour aller dans la vallée de l'Oust. Et il y a peut-être un enjeu là, s'il y en a un qui doit sur lequel on pourrait réfléchir, c'est peut-être celui-là.
Mais en tout cas, on a invité la région à venir à cette table ronde et ils ne pouvaient pas venir.
Mais ça serait intéressant, effectivement, de remettre à plat tous ces enjeux pour voir s'il n'y a pas une gestion du fleuve qui peut être différente de ce qu'elle est actuellement.
En tout cas, on se rend compte qu'on en demande beaucoup aux rivières en Bretagne. On peut peut-être, Gaël Ledu, passer aux questions du public maintenant, s'il y a des questions.
Oui, puisqu'il est déjà midi, mais nous sommes toujours en direct pour 15 minutes sur les ondes de Radio Crazy Braise et de Radio Broadjunette, ici à Mur de Bretagne, Guerre-les-Dents, à la foire Biozone. Donc si vous avez des questions ou des remarques, des choses à nous dire.
Dans cet été, exceptionnellement, moi je suis là depuis une dizaine d'années. On a vu que le lac avait plusieurs fois des cyano, je sais pas quoi, bactéries, qui fait qu'on pouvait pas se baigner. Et donc, ça a posé question, d'où viennent-elles?
Donc, en fait, la présence de cyanobactéries dans le lac de Guerre-les-Dents n'est pas récente. C'est un truc qui est assez récurrent et qui arrive, c'est la problématique des eaux stagnantes. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que une eau courante s'auto-épure, se réchauffe moins vite, s'oxygène, et quand elle s'oxygène pas et qu'elle stagne et qu'elle se réchauffe au soleil, se développent des cyanobactéries. Donc dans le lac de Guerre-les-Dents, on a la chance d'avoir une profondeur qui est très importante, ce qui fait que quand il y a des cyanobactéries, c'est uniquement dans les fonds des anses à l'Andréonec ou bien dans l'anse de Sordan. Cette année, la baignade a été interdite, je crois, trois fois dans l'anse de Sordan. Mais au milieu du lac, il n'y a pas trop de problèmes de cyanobactéries. Mais cette problématique des cyanobactéries, c'est la problématique des eaux stagnantes. Et parce ça se retrouve à Guerre-les-Dents.
Donc il n'y a pas de problème parce que c'est tellement profond que l'eau est froide, suffisamment froide, reste suffisamment froide pour que ça ne se développe pas malgré des eaux assez chargées en
nutriments. Ça se développe sur les plages.
Oui, sur les plages, oui, mais justement, vous dites la profondeur aide parce que ça reste suffisamment froid, c'est quoi?
La profondeur va aider à ce que la ressource en eau globale par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début ne soit pas affectée par les cyanobactéries. C'est la baignade à Sordan et à l'Andréonec qui est interdite à ce moment-là. Mais par contre, cette problématique-là, on va la retrouver sur le Blavet en aval à chaque fois qu'il y a un barrage, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le centre-ville de Pontivy. L'eau en été, elle stagne. Et donc, on va retrouver des cyanobactéries, sauf qu'on ne fait pas trop d'analyses sur Pontivy, donc on ne le dit pas.
Et monsieur Dabé, ça fait un sacré frein au tourisme, ça, quand même?
Après, oui, c'est vrai que les prélèvements, et donc il nous faut faire des analyses hein, toutes les semaines. Et donc voilà, après, quand on sait qu'il y a des cyanobactéries, on est obligé de prévenir, et voilà, parce qu'il y a quand même danger. Hein. Ça peut être des irritations de peau, mais des problèmes intestinaux aussi. Donc voilà, donc oui, bien évidemment que c'est un problème pour le tourisme. Voilà, après, on est obligé de faire avec, malheureusement. C'est bien dommage, mais voilà.
Il y a une autre question dans le public.
Et quelle est la transparence de tous ces tests faits chaque semaine, monsieur? Est-ce qu'il y a un bulletin où...
Ils sont affichés. Les résultats doivent être affichés, ouais.
En mairie, en général, et au
en
bord
mairie,
de l'eau.
Oui, ouais, tout à fait. Et on prévient, parce que vous avez bien vu, hein, cet été, ben, voilà, c'est passé dans la presse. également hein, pour voilà pour prévenir la population et les touristes qu'il fallait faire attention, notamment à l'Andronec. Ouais.
Je pense qu'on doit pouvoir les trouver sur le site de l'ARS, l'Agence aussi, régionale de santé.
Ça passe par l'ARS, hein, bien évidemment.
Ouais. Il y a eu d'autres questions. C'est génial parce qu'on n'a pas beaucoup de public, mais il est très,
oui,
très dynamique.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'hiver 94-95, il y a eu des très grosses inondations en aval du barrage et les élus locaux s'étaient plaints qu'EDF avait refusé juste avant de lâcher un peu d'eau parce qu'ils disaient, nous, il faut qu'on produise l'électricité, on s'en fout si les gens sont les pieds dans l'eau après. Donc ça ne s'est pas reproduit depuis. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont les élus ont repris la main sur EDF?
Ben, il faudrait demander au représentant d'EDF, je ne veux pas parler à sa place, il n'est pas là. Mais je pense que la gestion par EDF du barrage en vue de limiter les inondations s'est très fortement améliorée ces 15 dernières années. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, en 94, ils avaient cette obligation dans leurs prérogatives, quoi.
Voilà.
Enfin, après, il y a un truc qu'il faut savoir. Moi, j'entends des gens qui me disent, quand le niveau d'eau monte un peu trop vite en hiver à Pontivy, ils me disent, ouais, monsieur EDF, ils ont qu'à faire un creux plus grand l'été. Mais je crois, donc je suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire, mais qu'un creux de 2 mètres dans le lac de Guerre-les-Dents, s'il pleut très fort en hiver pendant 4 jours, ça remplit les 2 mètres. Donc, c'est totalement illusoire de croire qu'on peut faire un creux au mois de septembre pour des inondations qu'on voudra éviter au mois de janvier. Ça se gère vraiment limite à l'heure près, quoi.
Ouais. Monsieur Dabé,
ouais, juste pour info, sur EDF, il y a 4 turbines donc, à Guerre-les-Dents pour produire de l'électricité depuis 1946. On considère que ça alimente, c'est de l'électricité dès les cours. Il y a 10 salariés et ça alimente environ 15 000 habitants pour 15 mégawatts. Il me semble que c'est ce que j'ai trouvé comme information.
15 000.
Voilà.
15 000 kilowatts.
Monsieur Dabé, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, non, je rejoins. C'est vrai qu'on se rappelle des bouées hein, qui étaient mises le long du canal hein, sur Pontivy. Bon, voilà, on ne les voit plus, heureusement. C'est
c'était
vrai
quoi
que
les bouées?
C'était pour éviter que l'eau rentre dans les rues. Hein, donc c'était pour surélever en fait, le canal. Les berges, du moins. Et c'est vrai que là, on ne les a plus parce que, ouais, comme vous vous dites, le barrage permet de réguler ces inondations. Et heureusement, d'ailleurs, heureusement pour les habitants de Pontivy.
Alors, Morgane Large, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission en direct. Je crois que c'est surtout un mot qui, pour vous, est important et résume assez bien, justement, tout ce travail entre les différentes instances et associations.
Bah, c'est l'équilibre. Moi, je trouvais que, justement, l'équilibre, c'était un mot intéressant pour parler de Guerre-les-Dents, de cette réserve d'eau à qui on demande quand même beaucoup, et mettre dans la balance juste les loisirs à côté de l'alimentation en eau potable, les milieux aquatiques, l'importance des milieux aquatiques avec bien une anthropisation assez galopante de certains territoires. C'est un exercice, j'imagine, qui est très difficile. Mais je trouvais que c'était peut-être ça qu'il allait falloir travailler dans les mois, dans les années à venir pour Guerre-les-Dents. En tout cas, on vous remercie, Monsieur Séguet, d'être venu pour la PPMA de Pontivy.
Merci à vous.
Merci Michael Dabé aussi, deuxième vice-président de la CLÉ, la commission locale de l'eau du bassin versant du Blavet.
Merci.
Voilà, on clôt cette émission qui passait sur RKB et sur RBG.
Voilà, si vous venez de nous rejoindre sur les antennes, nous étions donc en direct de la foire Biozone de Mur de Bretagne, Guerre-les-Dents. Et dès lundi prochain, vous aurez la possibilité de réécouter toute cette émission en réécoute en podcast, en vous connectant sur rkb.bzh, rbg.bzh ou radiobraise.bzh. Merci à Clément Basso qui a assuré la technique et merci à toute l'équipe de la foire Biozone pour son accueil. Vous avez rendez-vous aujourd'hui et demain à Mur de Bretagne, Guerre-les-Dents pour cette grande foire régionale écologique.
Je voulais juste rajouter que cette table ronde, c'est la seule qui soit en direct à Biozone. Par contre, il y a plein de tables rondes ce week-end sur le thème de l'eau qui sont très intéressantes et qu'il ne faut vraiment pas louper. Je pense qu'il y aura du très haut niveau pour parler de l'eau à Biozone cette année. Kenavo.
Kenavador.
Radio Craze Brace et Radio Brodunette en direct de la foire Biozone de Mur de Bretagne, Guerre-les-Dents.